Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia et Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir.
La campagne électorale bat son plein au Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar promet d'accorder une amnistie à ceux qui accepteraient de rendre les fonds publics détournés.
L'ex-général rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa, en exil en Afrique du Sud, il accuse Kigali d'intimider les opposants.
Le bilan du naufrage de deux embarcations de migrants au large de Djibouti s'établit maintenant à 52 morts.
Le président américain Donald Trump évoque une prochaine rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Campagne électorale au Nigeria, l'ancien vice-président et candidat du principal parti d'opposition, le PDP, Atiku Abubakar, a laissé entendre qu'il accorderait une amnistie à ceux qui vont accepter de rendre les fonds publics détournés, une proposition qui fait des vagues dans le pays. À Abuja, les précisions de Gilbert Tomba.
Atiku Abubakar veut se servir de l'exemple de la Turquie pour amnistier ceux qui ont détourné des fonds publics, à condition que ces derniers acceptent de rendre l'argent détourné. Cela a fonctionné pour la Turquie, a dit l'opposant mercredi soir lors d'une émission de télé. Le candidat à la présidentielle du 16 février a également mentionné la lenteur du système judiciaire nigérian comme frein à la lutte anticorruption. Si vous engagez des poursuites contre ces personnes, vous les poursuivez sans fin et vous ne récupérez pas l'argent, a-t-il déclaré, arguant que ces sommes pourraient être réinverties dans l'économie. Il faut choisir entre la droiture morale et le développement du pays, a-t-il conclu. La lutte contre la corruption est au cœur de la campagne présidentielle. Le Nigeria est classé 144e sur 180 pays en 2018, selon l'indice de perception de la corruption publié mardi par Transparency International. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, les quatre manifestations prévues à Yaoundé au mois de février ont été interdites ce jeudi, 5 jours après des marches contre la réélection de Paul Biya. L'opposant Maurice Kamto a été arrêté lundi à la suite de manifestations de son parti dans plusieurs villes. Ses avocats ont indiqué qu'il va faire l'objet d'une enquête pour 8 infractions, dont la rébellion et l'incitation à l'insurrection.
Au Tchad, les syndicats de la fonction publique annoncent l'entrée en vigueur de l'accord avec les autorités. Cet accord, signé fin octobre, prévoit une baisse des primes et indemnités des fonctionnaires de 35%, alors que le gouvernement prévoyait initialement de les réduire de 50%. Brahim Ben Saïd, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, a indiqué que les agents de l'État ont commencé à percevoir leur salaire. Les syndicats ont salué une avancée significative qui contribuera à amener les fonctionnaires à rétablir la confiance perdue envers le gouvernement.
L'ex-général rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa, exilé en Afrique du Sud, a accusé Kigali d'intimider et de terroriser l'opposition après l'émission de mandat d'arrêt contre lui. Nathalie Barge.
Selon la presse locale, le parquet rwandais a émis des mandats d'arrêt contre le général en exil Faustin Kayumba Nyamwasa et d'autres leaders du P5, qualifiés de groupes rebelles basés dans l'est de la RDC. Le beau-frère du dissident, Frank Ntwali, et maître Kennedy Giana figurent parmi les personnes visées. Pretoria a indiqué ne pas avoir été informé de ces mandats. C'est la façon dont le gouvernement rwandais travaille en intimidant et terrorisant l'opposition, a-t-il affirmé. L'émission de ces mandats survient alors que la justice sud-africaine se penche sur l'assassinat d'un autre dissident, Patrick Karegeya, ex-chef des services secrets rwandais, retrouvé étranglé dans un hôtel de Johannesburg en 2014. Le parquet sud-africain a établi que des liens étroits existent entre les suspects de cet assassinat et le régime Kagame.
Le bilan du naufrage de deux embarcations de migrants sursargés au large de Djibouti est passé à au moins 52 morts et pourrait encore s'alourdir, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ekiabadou.
Aucun être humain ne mérite un tel sort. C'est aux acteurs et aux dirigeants de toute la région de prévenir de telles tragédies qui coûtent des vies innocentes, a déclaré Laleni Verasami, chef de mission de l'OIM à Djibouti. L'Organisation internationale pour les migrations a précisé que 15 survivants ont été retrouvés, majoritairement des Éthiopiens. Les secouristes continuaient jeudi à chercher des corps sur les plages des environs de la petite ville portuaire d'Obok, sur la côte nord-est de Djibouti. Le bilan peut encore s'alourdir, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Un survivant a estimé à 130 le nombre de personnes à bord du bateau sur lequel il se trouvait. Le naufrage a eu lieu mardi, environ 30 minutes après le départ des bateaux surchargés par une mer agitée, à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Obok, pour se rendre au Yémen, selon l'OIM. Situé près de la Somalie instable et de l'Éthiopie, Djibouti est devenu un pont de transit important pour les migrants, mais les traversées sont souvent périlleuses.
Le président soudanais Omar el-Béchir a raillé ce jeudi ses opposants, affirmant qu'un changement de président ne pouvait se faire sur les réseaux sociaux. De nouveaux rassemblements ont été dispersés par la police dans plusieurs villes du Soudan. Après la décision du gouvernement de tripler les prix du pain, l'association des professionnels soudanais utilise les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Twitter pour inciter la population à sortir dans les rues. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations en décembre.
En Afrique du Sud, le groupe audiovisuel public renonce à son plan de licenciement qui prévoyait de supprimer près d'un quart des postes de journalistes dans l'intérêt de la SABC, de ses employés, de ses actionnaires et du public sud-africain. La SABC a décidé de ne plus invoquer l'article 189 du Code du travail qui l'autorise à recourir à des licenciements, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La SABC possède 3 chaînes de télévision et 18 radios qui diffusent dans les 11 langues du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le second round de négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se déroule à Washington sur fond de tensions avec l'affaire Huawei. Le président Donald Trump estime que ces négociations se passent bien. Il a évoqué une prochaine rencontre avec son homologue chinois, Raïssa Girondin.
Les rencontres se passent bien dans un bon état d'esprit des deux côtés, a indiqué le président américain dans une série de tweets. Il a ajouté qu'aucun accord final ne sera conclu avant une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping pour dissiper les derniers points de discorde. Le locataire de la Maison-Blanche, qui reçoit ce jeudi le vice-premier ministre Léo Re, a estimé que la Chine ne souhaitait pas un accroissement des taxes douanières punitives alors que son économie ralentit. Les deux puissances tentent de pacifier leurs relations commerciales d'ici le 1er mars. L'augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois doivent entrer en vigueur dans un mois. L'administration Trump dit vouloir mettre fin à des pratiques commerciales qualifiées de déloyales, pointant du doigt le transfert forcé de technologies américaines, le vol de la propriété intellectuelle et les subventions aux entreprises nationales chinoises. Par ailleurs, la justice américaine a annoncé une série d'inculpations visant Huawei, le géant des télécoms chinois. Sa directrice financière, Meng Wanzhou, fille du créateur de ce groupe, a été arrêtée au Canada en décembre sur demande des enquêteurs américains.
Les négociations pour un compromis budgétaire continuent au Congrès américain. Les services fédéraux sont financés jusqu'au 15 février. Sur Twitter, Donald Trump a appelé à arrêter les jeux politiques, estimant que les élus républicains perdaient leur temps à négocier notamment sur la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Le président américain a une nouvelle fois laissé entendre qu'il pourrait déclarer le pays en situation d'urgence, une mesure qui lui permettrait d'activer des pouvoirs extraordinaire afin de contourner le Congrès.
Les États-Unis ont appelé les pays européens à suivre leur exemple en reconnaissant rapidement Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Washington a reconnu l'autorité de l'opposant dès son autoproclamation le 23 janvier en lieu et place du dirigeant socialiste Nicolas Maduro. Les 28 pays de l'Union européenne ont eux annoncé qu'ils prendraient de nouvelles mesures si une élection présidentielle n'était pas convoquée dans les prochains jours au Venezuela.
Téhéran a qualifié de première étape la mise en place par l'Union européenne du canal de communication financière, cette nouvelle entité imaginée par l'Union européenne pour faire du commerce avec l'Iran. Le président américain Donald Trump avait annoncé en mai sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et de rétablir des sanctions économiques contre l'Iran.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La dette extérieure du Ghana a atteint 18 milliards de dollars. Ce montant représente 10 fois ses exportations nettes. Les secteurs économiques traditionnels, notamment l'or et le cacao, ont généré moins de revenus en devises. Cette situation pourrait à terme peser sur la stabilité macroéconomique. Le gouvernement s'est donné pour ambition de réduire substantiellement sa dette d'ici la fin 2021. Le Nigeria veut construire 19 nouvelles routes dans 11 États du pays pour une longueur totale de 794 kilomètres. Ce nouveau projet est le fruit d'un partenariat public-privé. Six grandes entreprises du pays, dont Dangote Industries Limited, vont financer les travaux. En échange, les principaux investisseurs du projet devront bénéficier des mesures d'allègement fiscal. La Tunisie va construire deux barrages dans les régions du Kef et Béja, dans le nord-ouest du pays. Ils permettront de mobiliser d'importantes quantités d'eau pluviale pour renforcer les capacités de production agricole et créer ainsi de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois dans les régions concernées. Ce projet coûtera environ 100 millions de dollars. Un prêt du Fonds arabe de développement économique et social, FADES.
C'était la Minute Éco, l'actualité économique avec Eric Manirakiza. À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Renford Kalabar est de retour au TP Mazembe.
Oui, l'international zambien a rompu avec le groupe et fera partie des joueurs qui se mettront au vert pour la réception du club africain de Tunis dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Pour cause des blessures, le capitaine des Corbeaux a raté le dernier match du TP Mazembe face au CS Constantine du côté de l'Algérie où ils ont perdu 3-0. Signalons aussi la réintégration de Jean Kasusula et les renforts de Godé Mazengu et Owe Boyanga. Sévèrement battu par le CS Constantine, le club de Lubumbashi s'est vu éjecté de son fauteuil de leader du groupe C. Mazembe est désormais troisième derrière son bourreau et le club africain. Les Corbeaux sont donc condamnés à bien mieux faire à la maison ce samedi face aux Tunisiens du club africain.
Le mercato hivernal se referme ce soir.
Et ça bouge pour certains joueurs africains utilisés une seule fois par Toulouse cette saison. Le défenseur polyvalent Steve Yago part chercher du temps de jeu en Ligue 2. L'international burkinabé a été prêté pour 6 mois au Havre avec option d'achat. C'est fait pour Mbaye Diang, actuel meilleur buteur du championnat turc avec 20 buts en 17 matchs. L'international sénégalais de 27 ans a quitté Kazem Pasa pour s'engager en faveur de Galatasaray. Il est question d'un transfert à 12 millions d'euros et d'un contrat de 4 ans et demi rémunéré à hauteur de 2,3 millions d'euros par saison pour l'ancien joueur de la Juventus Turin.
Pour sa part, Youssef Haït Benacer quitte encore l'AS Monaco sous la forme d'un prêt.
Oui, cédé à Caen la saison passée, l'international marocain de 22 ans rejoint cette fois l'AS Saint-Étienne pour 6 mois et sans option d'achat. Et puis, 6 mois seulement après son arrivée, l'international Bissau-Guinéen Pelé quitte déjà l'AS Monaco et rebondit en deuxième division anglaise du côté de Nottingham Forest. Gidilson Mamadou Tunkara Gomez, surnommé Pelé, a signé un accord de prêt jusqu'à la fin de la saison. Fin du feuilleton autour d'un potentiel transfert du milieu des Toffees, le Sénégalais Idrissa Ganagay. Everton est déterminé à garder son joyau et à refuser la dernière offre du PSG. La seule proposition formulée s'élèverait à 25 millions d'euros, bien loin des 40 exigés par les dirigeants anglais.
Mauvaise nouvelle pour Guingamp et Papi Djilabodji.
et 8 auteurs d'un coup de pied en plein visage de Pablo Chavaria à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 contre Reims. Le défenseur sénégalais a écopé de 6 matchs de suspension. Papi Djilobodji ratera donc les 5 prochains matchs de Guingamp.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia et Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Au Niger, les centrales syndicales menacent de paralyser l'administration. Si dans 2 semaines, leurs revendications sociales ne sont pas satisfaites, déjà les travailleurs du secteur de la justice observent un arrêt de travail de 2 jours. De Niamey, la correspondance de Abdoul Razak Idrissa.
C'est une dizaine de revendications que les principales centrales syndicales du pays posent au gouvernement de Brigitte Raffini.
La convocation du comité sur la réduction du prix des hydrocarbures, la création du cadre de concertation sur la réduction des prix de la téléphonie, la mise à la disposition du comité chargé du parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État, des ressources nécessaires, l'organisation de l'atelier de validation sur la révision de la convention collective interprofessionnelle.
Le gouvernement s'est pourtant engagé à satisfaire ses revendications au plus tard à la fin de l'année 2018. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ne comprend pas cette attitude. Jibril Idrissa, coordonnateur de l'ITN.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement signe librement des accords et qu'il ne soit pas capable d'appliquer au moins un point. Même la mise en place du comité de suivi n'a pas été faite. C'est-à-dire que tous les points qui ont fait objet d'accord, rien n'a été fait par le gouvernement, alors que certains points sont des points qui ne sont pas difficiles à appliquer. Et mieux, nous avons même fait une lettre de rappel au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale le 10 janvier, mais là aussi, sans réaction. C'est ce qui a amené l'ITN à donner un délai de 2 semaines au gouvernement pour appliquer tous les points arrivés à échéance. Après les 2 semaines, bien sûr, l'ITN va user de tous les moyens légaux pour se faire entendre ou pour satisfaire ses revendications.
Les agents du secteur de la justice, eux, n'ont pas attendu la fin de cet ultimatum de l'ITN, le syndicat national des agents de la justice, composé essentiellement des greffiers des tribunaux, a appelé ses militants à observer dès ce mercredi un mouvement de grève de 48 heures. Madame Sani Essata Garba, membre du SNAJ.
Entre autres, on peut vous citer, par exemple, l'adoption de la grille salariale qui, normalement, après l'adoption des statuts, on doit adopter une nouvelle grille salariale parce que qui dit statut autonome dit nouveau traitement indiciaire. Malheureusement, de 2015 à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est jamais comporté en bon responsable. Et comme il n'y a pas de grille salariale, récemment, nos camarades ont été recrutés. Ça fait aujourd'hui 8 mois, ils n'ont reçu aucun copec. Ils n'ont même pas été mis en solde, à plus forte raison, recevoir leur salaire. Imaginez-vous, si on veut un meilleur rendement, si on est vraiment conscient de ce que la justice joue dans un pays, le greffier n'est pas à négliger. Je précise qu'il s'agit d'une grève d'avertissement.
Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. Au Tchad, la question du serment confessionnel instauré dans la nouvelle constitution continue d'alimenter les débats. Le chef de l'Église catholique du pays sort de son silence. Il demande aux chrétiens de respecter leurs convictions religieuses. Ce sujet relance le débat sur le principe de la laïcité de l'État. André Komajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Abusivement, on a dit que toutes les autorités religieuses ont été d'accord pour le faire. C'est faux. La proposition médiane que les chrétiens ont faite pour cette loi n'a pas été tenue en compte.
Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, donna la position officielle de l'Église catholique face au serment confessionnel qui divise les Tchadiens. Car toute personne nommée par décret à de hautes fonctions de l'État qui refuse de prêter serment parce que sa conviction religieuse l'interdit n'a pas sa place dans la gestion de la chose publique sous la 4e République. Pour l'archevêque, ce ce serment confessionnel est anti-biblique.
Je voudrais que les chrétiens soient libres dans leur conscience. L'essentiel, c'est que vous vous engagez devant Dieu au fond de votre conscience et devant le bien commun. C'est ça notre souci. Donc je demande à tous les chrétiens qui ont une responsabilité, quelle que soit, qu'on les écarte parce qu'ils n'ont pas fait le serment, qu'ils montrent qu'ils sont des chrétiens. Même s'ils sont subalternes, ils doivent le manifester.
Maître Nadji Madou, membre de la majorité présidentielle, l'un des géniteurs de la nouvelle constitution, réfute les allégations selon lesquelles le serment confessionnel n'a pas sa place dans une constitution d'un État laïque. Pour lui, le principe de laïcité dont l'archevêque fait allusion est une colonisation française qui n'a rien à voir avec l'histoire politique au Tchad.
Est-ce qu'on peut financer la construction d'une basilique ou la réfection d'une cathédrale sur le fond de l'État? Doit-on occuper les routes pour des prières? Les vendredis, vous regardez, les routes sont occupées. Est-ce que c'est ça un État laïque? Voilà autant de comportements qui ont violé le principe sacro-saint en France. Je dis bien qu'il n'a rien à voir avec notre histoire politique. Que l'évêque ait dit leur position n'a pas été adoptée, justement, il est en train de violer le principe de la laïcité. Pour faire une constitution d'un État laïque, on n'a pas à demander à une corporation de venir donner sa position. Le principe du serment est biblique, il est théologique, il est canonique. Qu'on ne vienne pas me raconter de n'importe quoi.
Le président du conseil exécutif des œuvres et missions de l'église évangélique Maranatha Tchad, Dr Sitak Yumbatina Beni, par ailleurs enseignant-chercheur, balaye d'un revers de main ses allégations. Il estime que le message de l'archevêque de N'Djamena concerne toute la communauté chrétienne du monde, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu.
Quand Jésus vous dit, moi je vous dis de ne pas jurer, on ne jure pas. Point la ligne. On ne discute pas ces choses-là. C'est pas de la politique à travers le serment confessionnel, mais on exclut une bonne partie de la population tchadienne qui n'est ni chrétienne, qui n'est ni musulmane. Or, la République n'a pas à diviser ses fils. C'est une dérive ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Docteur Sitak Yumbatina Beni de préciser que c'est un débat spirituel qui va rester dans la conscience de quelques rares chrétiens qui sont dans le gouvernement. André Kotmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Ce jeudi, dans Washington Forum, gros plan sur le terrorisme au Burkina Faso. Deux nouvelles attaques ont fait 14 morts dans la province du Soum cette semaine. Les incursions djihadistes se multiplient dans ce pays jadis épargné par le terrorisme. L'état d'urgence, décrété dans plusieurs régions, peine à prouver son efficacité et le président a limogé mi-janvier le chef d'état-major de l'armée. Qui sont les terroristes qui opèrent au Burkina Faso? Que revendiquent-ils? Que manque-t-il à ce pays pour leur faire face? Morgane Guiriec en votre compagnie. On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
La tech africaine revendique sa place sur la scène mondiale. L'Africa Tech Now, organisé récemment à l'occasion du Salon de l'électronique de Las Vegas, veut mettre en avant l'innovation technologique africaine et renforcer l'image des pays africains au niveau international. Arzuma Compaoré y a rencontré Daniel Sarr. Il est le directeur du partenariat et de la promotion de la société sénégalaise Gaindé 2000. Il nous parle ici de leur nouveau produit Orbus Pay.
Orbus Pay, c'est un agrégateur des moyens de paiement qui est opérationnel aujourd'hui au Sénégal. Dans nos marchés, avec le taux d'inclusion financière qui est un peu bas, l'usage de tout ce qui est crédit, de carte de crédit et carte bancaire est assez bas. On assiste tous à la montée du paiement mobile. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour permettre à certaines plateformes digitales de pouvoir être opérationnelles de bout en bout, on a mis en place un agrégateur des moyens de paiement, ce qui fait que vous pouvez payer en ligne en choisissant le moyen de paiement qui vous paye. Donc soit par carte bancaire, soit par mobile money, mais aussi en cash, mais en utilisant le réseau des agences, des opérateurs de transfert d'argent. On a fait une nouvelle version de cette application qui intègre une architecture blockchain et de l'intelligence artificielle. Et voilà, cela montre aussi que des innovations africaines pour répondre à des problématiques africaines peuvent, par pur hasard, correspondre à d'autres problématiques dans le monde.
C'est quoi, de façon pratique, quels sont les domaines dans lesquels est-ce que Orbus Pay voit justement la vie des Sénégalais s'améliorer au jour le jour?
Au Sénégal, on est passé sur des taux de pénétration Internet ces dernières années qui ont augmenté de manière significative. Donc, au quotidien maintenant, c'est assez surprenant, mais vous allez voir des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont leur connexion à Internet, qui communiquent sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Donc, les usages usages au quotidien du numérique sont en train de se généraliser. Dessus, il y a une vraie opportunité. Et cette opportunité, s'il n'y a pas des acteurs africains qui se positionnent dessus pour mettre en place des services, on va rater ce virage-là et ça va être toujours les acteurs étrangers qui vont mettre en place des plateformes de services que nos jeunes Africains vont consommer.
C'était quoi le principal challenge d'arriver à éduquer les Sénégalais à l'usage justement de vos services?
Il y a beaucoup de challenges. Il y a d'abord ce premier challenge et comment appréhender un peu le digital et pouvoir être à l'aise avec ces technologies-là. C'est un challenge, mais ce dont on assiste là ces dernières années, c'est que les nouvelles générations qui arrivent, elles sont nées avec, elles n'ont même pas besoin de s'adapter. Et ces nouvelles générations, mine de rien avec le temps, elles arrivent sur le marché du travail, elles commencent à avoir un pouvoir d'achat, etc. Et donc, c'est une de nos cibles. Aujourd'hui, l'un de nos challenges, c'est dessus, de pouvoir augmenter l'inclusion financière. Mais au-delà de ça, de manière globale, dans cette économie qui est en train de se digitaliser, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment amener des contenus africains. Des contenus africains pour pousser nos populations à consommer africain, à payer avec des citoyens africains, parce que vraiment, dans ce monde digital, il n'y a plus de frontières, et si on n'existe pas sur ce marché des contenus-là, les populations vont consommer ailleurs sans s'en rendre compte. Et après, derrière, c'est des entreprises qui vont décliner, des emplois qui ne seront pas créés, et on n'arrivera pas à gérer les enjeux de la démographie que l'on connaît déjà.
C'était Daniel Sarr, le directeur du partenariat et de la promotion de la société sénégalaise Gaïndé 2000.
Les États-Unis subissent un froid glacial. Certaines régions du Midwest connaissent des températures extrêmes qui ont forcé la suspension de certains services de base, perturbé le travail et les horaires scolaires. Il est conseillé aux citoyens de rester au chaud. Écoutons le reportage de Zlatika Oké, le récit est de Gabi Dorsil.
À Minneapolis, dans le Minnesota, il règne un froid polaire accentué par un vent glacial. La température est tombée à moins de 20 degrés Celsius. Pour autant, les rues ne sont pas entièrement désertes. Calvin Wymerscotch, un habitant de Minneapolis.
C'est vraiment glacial. Je n'ai jamais vécu un froid pareil. Mais vous savez, tout va bien. Ça fait partie de la vie au Minnesota.
Jusqu'à la fin de la semaine, plus de 200 millions de personnes, soit près de 70% des habitants des États-Unis, vont connaître des températures égales à ou en dessous de 0 degré Celsius. Quelques 25 millions de personnes dans le nord-est seront confrontées à des risques d'engelure, cette maladie où les mains, les pieds, le nez ou les oreilles sont exposés au froid, s'enflent et font mal. Joe Hagsett, le maire d'Indianapolis.
Cela signifie que les températures réelles combinées au vent glacial peuvent atteindre des niveaux extraordinairement dangereux.
Le maire d'Indianapolis et d'autres responsables du Midwest appellent donc à la prudence.
Si vous devez être dehors, couvrez-vous. Sachez que les engelures et l'hypothermie sont de gros risques.
Les responsables de santé exhortent aussi les voyageurs à se préparer aux urgences. Dr. Tom Waters, d'un hôpital de Cleveland, dans l'Ohio.
Nous entendons toujours des histoires de personnes coincées dans leur voiture et nous pensons que cela ne peut pas nous arriver. Mais en hiver, c'est bon de s'assurer que votre voiture contient du matériel de sécurité.
Les gouverneurs de l'Illinois, du Michigan et du Wisconsin ont déclaré l'état d'urgence. Certains districts ont fermé les écoles et cessé la distribution du courrier. Le ramassage des ordures est interrompu, tout comme le transport et d'autres services publics. Les équipes de maintenance font de leur mieux pour répondre aux appels d'urgence. Brian Peckinpah, du service des eaux de Détroit, dans le Michigan.
Actuellement, nous avons 26 ruptures de conduite d'eau dans la ville de Détroit. Chaque fois qu'il y a des changements extrêmes de température, chaude ou froide, l'eau se contracte dans la conduite principale, ce qui entraîne des ruptures.
Les météorologues expliquent ce temps par une perturbation du vortex polaire, ce tourbillon nuageux qui couvre le pôle Nord. Un souffle d'air chaud venu d'Afrique du Nord a propulsé une partie de l'air glacial sur toute l'Amérique du Nord, jusqu'en Floride.
Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Sims Lumami, à la console Joe Gill, au micro Claire Morin-Jubourg et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous. Tout de suite, Washington Forum, présenté par Morgane Guiriec. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.